20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est un instrument exceptionnel, un instrument et une œuvre d'art en même temps que nous nous intéresserons ce soir, le clavecin couché qui fait partie des trésors du Musée de la Musique à Paris et auquel un très bel ouvrage est consacré, ouvrage publié par les éditions du Musée de la Musique. Son auteur, Christine Laloux, sera avec nous ce soir et nous racontera l'histoire de cet instrument dont le toucher comme le somptueux décor ont conquis, entre autres, le claveciniste Christophe Rousset. Et puis nous découvrirons le concerto The Sound of Trees de Camille Pépin, récompensé aux Victoires de la Musique, une œuvre qui vient de faire l'objet d'un enregistrement sorti chez Nomad Musique. Mais pour commencer, un petit tour d'horizon de l'actualité musicale, une actualité musicale bien morose, marquée malheureusement par de nombreuses annulations de concerts engendrées par la décision du gouvernement d'interdire tout rassemblement de plus de 1000 personnes. C'est ainsi que la Philharmonie de Paris a annoncé aujourd'hui l'annulation de tous les concerts programmés dans la grande salle Pierre Boulez, une salle de 2400 places, à compter de ce soir et jusqu'au 22 mars. Sont ainsi concernés cette semaine les concerts de l'Orchestre Symphonique de Stuttgart avec Théodore Courensis, de l'Orchestre de Paris avec Alain Altinoglu et Alexandre Tarot, ou encore du Week-end de Moscou où devait se produire l'Orchestre et le Chœur du Bolchoï sous la direction de Tougan Sokiev. Par contre, les concerts de la Cité de la Musique et des autres salles de l'établissement sont bien maintenues et le Musée de la Musique, où vous pouvez d'ailleurs admirer le clavecin couché dont nous parlerons tout à l'heure, reste bien ouvert. La scène musicale annonce également l'annulation du festival Chorus, prévu du 25 au 29 mars, tandis que les concerts de l'auditorium sont eux maintenus. L'Opéra de Paris a fait savoir par un communiqué tout à l'heure que les trois prochaines représentations à Bastille ne pourront avoir lieu, à savoir le ballet de Georges Balanchine ce soir, Manon demain et le concert de l'orchestre de l'Opéra de Paris mercredi. L'Opéra communiquera au plus tard le 11 mars les modalités relatives aux représentations programmées ultérieurement tant à Garnier qu'à Bastille. Quant au Théâtre des Champs-Élysées, où il n'y a pas de concert de prévu d'ici dimanche, eh bien il se garde encore quelques jours pour prendre une décision. En ce qui concerne la région, Mulhouse, qui se trouve dans une zone d'infection, annule tous les spectacles prévus à la Filature. À Bordeaux, pas de perturbation, si ce n'est le report du récital d'Ildar Abdrazakov prévu mercredi, et cela suite aux restrictions sur les voyages empêchant le baryton basse de venir en France. À l'Opéra de Marseille, pas de perturbation, tandis que l'Auditorium de Lille a décidé, afin de maintenir les concert de l'Orchestre National de Lille cette semaine, de revoir sa jauge à la baisse dans une limite de 850 spectateurs. Quant à la Hallograin de Toulouse, elle ne pourra, comme la Philharmonie, accueillir les concerts du Bolchoï, prévus les 10, 11 et 12 mars dans le cadre des musicales franco-russes, mais nous tiendra prochainement informés concernant les autres événements de ce festival. L'Opéra de Lyon est également dans l'attente de précisions avant de prendre une décision, mais s'engage dès à présent à rembourser ceux qui souhaiteraient annuler leur venue. Voilà des nouvelles bien tristes pour la vie musicale, à retrouver avec plus de précisions sur le site de Radio Classique dans l'article de Philippe Gau. Certaines salles dont la jauge n'excède pas les 1000 places peuvent fort heureusement maintenir leur programmation. C'est le cas notamment de l'Opéra de Lorraine à Nancy où se tiendra bien dès mercredi la nouvelle production d'Alcina de Handel, une production mise en scène par Serena Sinigaglia et dirigée par Leonardo Garcia Alarcón à la tête de sa Capella Mediterranea, une production qui sera ensuite présentée au mois d'avril à Dijon. Alors c'est Christina Mkhitaryan qui incarnera la terrible et cruelle enchanteresse, tandis que Suzanne Jérôme sera sa sœur Morgane. deux magiciennes dont la metteuse en scène, Serena Sinigaglia, a voulu ici souligner la souffrance afin qu'elle paraisse finalement bien plus humaine que les humains de chair et de sang, nous dit-elle. Alors Alcina, c'est sans doute l'un des plus beaux, en tout cas des plus aimés des opéras de Handel, au sein duquel figurent quelques airs parmi les plus célèbres et les plus envoûtants. C'est Patricia Petitbon que l'on écoutait ici, accompagnée par l'Orchestre baroque de Venise et Andrea Marcon dans l'air Torna mia vagheggiar d'Alcina de Handel. Alcina, dans une toute nouvelle production dirigée par Leonardo Garcia Alarcón et mise en scène par Serena Sinigaglia. C'est à partir de mercredi et jusqu'au 18 mars à l'Opéra National de Lorraine à Nancy, un opéra dont la jauge, je vous le rappelle, n'excède pas les 1000 places. Toutes les représentations sont donc bien maintenues. Et puis cette production d'Alcina sera ensuite à l'affiche de l'Auditorium de Dijon du 15 au 19 avril.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Il est difficile de verbaliser l'impression qu'un tel instrument produit sur qui le joue, écrit Christophe Rousset dans la préface d'un passionnant ouvrage consacré au clavecin couché, un ouvrage que l'on doit à Christine Laloux, conservatrice au Musée de la Musique à Paris. Ce clavecin couché est l'un des rares instruments connus de ce grand facteur qu'était Johannes Couché, un instrument datant de 1652 qui a connu plusieurs transformations entre la Flandre et la France, et un instrument sur lequel Christophe Rousset a réalisé quelques merveilleux enregistrements dédiés à Froberger et Louis Couperin, mettant ainsi en lumière un toucher et des qualités sonores exceptionnelles. Et ce clavecin est aussi beau à écouter qu'à regarder, tant la richesse de son décor impressionne et en fait une véritable œuvre d'art. C'est ce que nous allons évoquer ce soir avec Christine Laloux, notre invitée. Elle nous raconte justement l'histoire et les particularités de ce clavecin couché, un clavecin que l'on peut admirer au Musée de la Musique à Paris.
Esthétiquement, il est à la fois beau musicalement, mais aussi visuellement. Et il semble faire un peu la synthèse des arts, représenter en tout cas les rapports entre la musique et la peinture, ou du moins réunir en lui toutes les qualités qu'on peut prêter à ces différents arts.
Alors cet instrument a été conçu par Johannes Couché, c'est l'un des derniers instruments de Johannes Couché, un nom qui ne nous est pas forcément très familier, en tout cas beaucoup moins que celui de Rückers par exemple, un nom connu en tout cas des clavecinistes. Mais Johannes Couché, et on le découvre à la lecture de votre ouvrage, faisait partie de la famille des Rückers.
Tout à fait. Il est par sa mère en fait un descendant donc de cette famille des Rückers. Il est l'un des derniers finalement facteurs de cette, on peut presque parler de dynastie. Il jouit d'une réputation absolument extraordinaire, à tel point que ses instruments sont réputés dans toute l'Europe. Les diplomates même vantent ses qualités et dans leur correspondance, c'est absolument un cas presque unique.
Et pourquoi est-il si connu ? Parce qu'il a su innover, trouver, développer des techniques particulières pour l'instrument.
Alors, je pense qu'il y a deux phénomènes. D'une part, les clavecins flamands, donc particulièrement les Rekers couchés, jouissaient d'une grande réputation. Et deuxièmement, lui-même a su peut-être aussi innover. En tout cas, c'est ce qu'on découvre à la lecture de ses instruments. Peut-être que les autres facteurs aussi innovaient, mais il n'y a pas beaucoup de traces, finalement, de production des autres facteurs.
Johannes Couchet, qui était donc flamand, son atelier était à Anvers. Anvers était à l'époque l'un des grands berceaux des facteurs de clavier.
Oui, Anvers était une ville très importante, non seulement pour la facture de clavier, mais pour les arts et même pour les débouchés économiques. Et c'est aussi un port qui est très ouvert sur l'extérieur. Donc vous avez des produits qui arrivent des pays étrangers, extraordinaires, lointains. Dans l'autre sens, évidemment, Anvers est une place commerçante très importante pour tout le reste de l'Europe. Ce qui fait une des richesses d'Anvers, c'est que non seulement vous avez un foyer musical, mais aussi un foyer important pour les autres richesses et les autres commerces comme les diamants, par exemple.
Et puis les peintres et les sculpteurs, d'ailleurs, je crois que Rubens habitait dans le même quartier que l'atelier de Couchet, c'est ça? Enfin, c'est ce qu'on lit dans votre livre.
Oui, oui, évidemment, Anvers a une grande réputation avec les peintres. Et d'ailleurs, peintres et facteurs, c'est partie de la même guilde. On dirait maintenant corporation, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais vous voyez, il y a une communauté, en tout cas, d'artistes qui se côtoyaient et pouvaient travailler ensemble.
On écoutait quelques notes de ce clavecin couché que l'on évoque avec vous ce soir, Christine Laloux. Quelques notes de Froberger jouées par Christophe Rousset. Christophe Rousset qui apprécie particulièrement cet instrument puisqu'il a réalisé plusieurs enregistrements sur ce clavecin couché. Il a d'ailleurs préfacé également votre livre. Il dit de très belles choses sur cet instrument. Il parle d'un monde sonore inexploré, de possibilités particulièrement inspirantes pour les répertoires français et les répertoires allemands du XVIIe, car, et on va l'évoquer avec vous, Christine Laloux, ce clavecin, finalement, symbolise une synthèse entre différents styles, le style flamand, le style français, le style italien aussi, puisque c'est un instrument qui a voyagé. Il est né en 1652 en Flandre, et il est arrivé quelques années plus tard à Paris.
Tout à fait. Alors, on ne sait pas exactement quand il est arrivé à Paris. Ce dont on est sûr, c'est qu'en 1701, il y a une date sur les claviers et tout concorde. Il est transformé en France pour répondre à une musique française et une registration de l'instrument française. Donc, il était en fait équipé d'un second clavier qu'il n'avait pas à l'origine. On lui met également deux jeux de 8 pieds et un jeu de 4 pieds. Donc, ça, c'est le système de longueur de corde. Ça correspond à des mesures avec référence à l'orgue. Et on refait un décor qui est absolument somptueux. À l'origine, il y avait un décor sur la caisse qui était une peinture en trompe-l'œil de faux marbre. Décor qui est gardé finalement sur le côté droit de l'instrument, mais pas sur la courbe. Et le nouveau décor, c'est évidemment toute cette peinture sur fond d'or et ce nouveau piétement sculpté, doré. Et pour compléter le tout, il y a un couvercle qui est peint avec une scène de paysage absolument ravissante.
Et d'ailleurs, ce couvercle est aussi beau, aussi précieux qu'un grand tableau.
Il est comparable au tableau de Chevalet, dont on peut faire collection. Et on pourrait presque s'imaginer ce tableau de couvercle dans finalement la continuité d'une collection de tableaux et venant s'insérer au milieu des autres.
Et d'ailleurs, le clavecin, à cette époque, au XVIIe siècle et au tout début du XVIIIe, trônait dans les salons des milieux aristocratiques. C'était important d'avoir son clavecin. C'était plus qu'un meuble, une œuvre d'art qu'on mettait en avant.
Oui, ce qui est intéressant aussi avec cet instrument, c'est qu'on voit son importance non seulement donc musicale et esthétique, mais aussi la part qu'il prend dans la société. Dans ce qu'on appelle maintenant les salons, mais qu'on n'appelait pas à l'époque salon, on pouvait parler de galeries ou de pièces, il permettait justement de se réunir, de faire de la musique ensemble, de recevoir. Et donc, non seulement il y avait un intérêt en loisir, mais aussi en éducation et un art de vivre, finalement. Donc, il était un signe de richesse matérielle, mais aussi culturelle.
Alors, vous évoquiez, Christine Lalou, l'arrivée de ce clavecin couché en France, toutes les transformations que l'instrument subit, tant sur le plan de la mécanique que sur le plan visuel, avec un décor qui fait davantage référence à un esprit français, en tout cas au goût français de l'époque, des personnages de la mythologie.
Oui, si on a fait un décor doré avec des grotesques, c'est évidemment en référence au goût ornemental du début du XVIIIe siècle. Ça fait référence un peu aux œuvres de Bérin, de Claude Audran, qu'on cite souvent pour les décors de théâtre ou des décors de carrosses, par exemple, de paravents, de boiseries. Et c'est un art qui prend aussi une influence de l'Italie. D'ailleurs, rien que le mot grotesque fait une référence à un décor qu'on a redécouvert dans la Domus Aurea, mais on l'adapte. Et c'est ça qui est formidable, c'est de voir comment le clavecin a évolué, ou comment on a fait évoluer ce clavecin-là, et comment il devient finalement la réunion des arts, d'où le titre, en fait, le sous-titre de ce petit livre, qui a pour but de montrer un peu toute la place qu'occupe un objet d'art qui est plus qu'un instrument de musique, si j'ose dire. Ça semble très provocant, parce que bien sûr c'est un instrument de musique, mais il dépasse finalement ce niveau d'outil pour devenir presque un symbole ou un manifeste.
Thank you.
Nous écoutions une sarabande de la suite en ré majeur de Louis Couperin dans le récent enregistrement de Christophe Rousset réalisé en 2018 à la Cité de la Musique sur ce clavecin couché que l'on évoque avec vous ce soir, Christine Laloux. Est-ce qu'on sait si Louis Couperin, par exemple, a touché cet instrument?
Alors, j'aimerais bien vous répondre oui, j'ai la preuve, mais non, non, non.
On connaît quelques noms
Pour ce clavecin-là, non. Il faut être très clair.
On peut juste imaginer.
Oui, se dire que parce que Chambonnière avait un clavecin couché.
Donc,
mais on ne sait
celui-là.
Pas si c'est celui-là. Ce qui est très difficile, en fait, avec ces clavecins, même fabuleux, c'est d'établir la provenance historique, son, vraiment toute l'histoire. C'est d'ailleurs pour cela aussi que, à propos des initiales qu'on voit sur le clavecin, je fais des hypothèses, mais je ne dis pas que c'est la vérité ou que c'est on a la preuve absolue.
Oui, ces initiales qui seraient celles du propriétaire, enfin des propriétaires successifs de cet instrument.
Voilà, donc si vous voulez, peut-être que plus intéressant vraiment que dire un tel a joué dessus, etc., c'est de replacer vraiment l'instrument, en l'occurrence ce clavecin-là, dans son contexte justement historique et musical, et de dire, ben voilà, il est très important parce que il vient d'un atelier formidable, qu'il a... Ses petits frères, si ce n'est lui, ont été connus en France, ont été joués par Chambonnière. Donc Couperin, Louis Couperin a pu peut-être approcher ces instruments-là, puisqu'il était très proche de Chambonnière. Et c'est comme ça que s'est forgé le goût.
Alors cet instrument, ce clavecin couché, il fait partie de la collection du musée de la musique, à la Cité de la Musique. On peut le voir lorsque l'on va visiter le musée, il est constamment exposé.
Oui, sauf quand il est évidemment en préparation de concert.
Est-ce qu'il sera sorti pour un concert? On se souvient d'un magnifique concert de Christophe Rousset il y a un an et demi, où il avait joué la musique de Couperin. Est-ce que le clavecin couché ressortira pour d'autres?
Mais il ressort, il a été joué il y a très peu de temps par un magnifique claveciniste qui s'appelle Justin Taylor.
Ah, Justin Taylor a joué le clavecin
oui,
couché.
Oui, tout à fait. Et il était à ce concert-là avec un violoniste que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Théotime Langlois de Swart. Et là, il va être programmé la saison prochaine également, ce magnifique clavecin. On y fait très attention, mais on prend bien conscience aussi que la dimension musicale est évidemment essentielle. C'est cela aussi la difficulté de notre métier, c'est de prendre soin des instruments en essayant de respecter aussi leur vie, ce qu'ils représentent, et donc pouvoir les faire jouer tant que c'est possible et sans qu'ils risquent.
Oui, parce que c'est fragile un clavecin.
C'est très fragile finalement un clavecin. On a l'impression comme ça que c'est indémontable, mais non. Et là, le décor en plus est très fragile. Donc c'est avec un énorme soin, mais aussi avec un énorme plaisir, qu'on écoute attentivement ces prodigieux clavecinistes. Et je dois dire que là, le disque de Christophe Rousset évidemment était une merveille pour moi. Et je remercie encore d'avoir bien voulu préfacer le petit livre. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration.
Voilà, un très bel ouvrage que vous avez signé, en tout cas, Christine Laloux, Le clavecin couché, les arts réunis, paru aux éditions du Musée de la Musique. Un ouvrage passionnant qui se lit comme un roman et avec une iconographie absolument sublime, de très très belles reproductions de cet instrument qui est, je le répète, aussi une œuvre d'art, un instrument aussi beau à regarder qu'à entendre. Merci beaucoup, Christine.
Merci.
Laloux, et puis on guettera la saison prochaine les concerts avec ce fameux clavecin couché. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Nous écoutions une courante tirée d'une suite en ut majeur de Louis Couperin, jouée par Christophe Rousset sur ce fameux clavecin couché, un instrument du musée de la musique dont vous pourrez donc découvrir toute l'histoire dans ce remarquable ouvrage signé Christine Laloux.
Le journal du classique sur Radio Classique.
Vient tout juste de paraître chez Nomad Musique l'enregistrement de l'œuvre qui a sacré Camille Pépin, compositrice de l'année aux Victoires de la Musique il y a quelques jours, quelques semaines. Un concerto, en tout cas une page concertante pour clarinette, violoncelle et orchestre intitulée The Sound of Trees, une œuvre commandée par l'orchestre de Picardie qu'il interprète ici sous la direction d'Harry Van Beck avec en soliste le clarinettiste Julien Hervé et le violoncelliste Yann Levionnois. Une œuvre inspirée d'un poème de Robert Frost évoquant le bruissement des arbres, se traduisant ici par de subtils alliages sonores, d'envoûtantes palettes de couleurs, dans un univers particulièrement poétique, et mettant en avant une vraie filiation de Camille Pépin avec Debussy, Debussy dont la compositrice a orchestré également quelques pages, tout comme des pièces de Lili Boulanger, pour compléter ce programme, pour entourer donc cette œuvre intitulée The Sound of Trees, dont je vous propose d'écouter un petit extrait ce soir. Un extrait du concerto pour clarinette, violoncelle et orchestre The Sound of Trees de Camille Pépin par Julien Hervé, Yann Levionnois et l'orchestre de Picardie sous la direction d'Harry Van Beck. Un extrait de cet enregistrement qui vient de paraître chez Nomad Music. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre François-Xavier Roth qui nous parlera du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, dont il sera l'un des invités au mois d'avril, mais aussi de son intégrale des symphonies de Beethoven avec laquelle il sillonne la France en ce moment, intégrale qu'il donnera le week-end prochain à Versailles. Et tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée en musique avec Francis Drezel. Je vous donne donc rendez-vous demain à 20h.